Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Libero per il traversone pericoloso, amore! Orsic! Pirlo, ancora Pirlo, di tecco, tiro! Grosso!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard-Pacini. Salut Guillaume.
Bonjour mon cher Yohann Crochet, bonjour tout le monde.
Guillaume, aujourd'hui, on va évoquer après ce week-end de Serie A, où on a eu sur certains matchs beaucoup de spectacles, oui. Sur d'autres beaucoup moins. Clairement, les deux matchs du samedi 15h, c'était une boîte de Prozac et voilà. Mais on a eu par contre d'autres très bons matchs et... La victoire de l'Inter contre la Juve nous a donné l'envie de refaire un petit point sur cette saison de l'Inter qui est clairement
exceptionnelle.
Ouais, c'est vraiment assez dingue. Mais avant d'évoquer tout cela, mon cher Guillaume, on va proposer aux auditeurs et auditrices d'aller très vite sur la boutique Calcio et Pépé pour découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, les
posters. Qu'est-ce qu'on va y découvrir, Yohann ?
Eh bien, les posters et les affiches sur le football italien. Donc, l'Inter, la Juve, le Milan, le Napoli,
la Roma.
La sélection. Voilà, ouais. Les années 80, 90, 2000. On a du vintage. On a aussi les clubs européens. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et pour nos auditeurs et auditrices, pendant 72 heures, vous avez droit à une réduction de 10% avec le code PODCAST. PODCAST à rentrer au moment du paiement. Donc voilà, on s'est dit, on va récompenser aussi nos auditeurs et auditrices de leur fidélité, évidemment,
Bien sûr, semaine
après semaine, ils nous écoutent, ils nous envoient des petits messages, c'est très, très agréable. Et donc, le code de 10% de réduction sur la valeur totale de votre panier. Guillaume, l'Inter, alors je vais commencer par une série de chiffres, parce que clairement, on parlait de saison exceptionnelle. Premier de Serie A, 4 points d'avance sur la Juve, et un match en moins, donc l'Inter a un match en moins de disputé que la Juve, 9 points d'avance sur le Milan, 19 points d'avance sur le cinquième. Rien que ça déjà, c'est ok, ceux de derrière font pas trop le taf, mais 19 points d'avance à un peu plus de la mi-saison, c'est quand même assez exceptionnel. Meilleure attaque et de loin, 51 buts marqués, donc en 22 matchs. Meilleure défense avec 10 buts encaissés seulement en 22 matchs, seulement une défaite. 2,6 points de moyenne par match. Une seule défaite, donc, je l'ai dit. Ça, c'est en championnat. Et sur les 4 derniers mois, une seule défaite, c'est en Coupe d'Italie contre Bologne. Petite précision au passage, Guillaume, ils ont aussi le meilleur buteur de Serie A, histoire d'accumuler un peu toutes les premières places de tous les classements. Lautaro Martinez avec 19 buts. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, Guillaume, on a presque envie de dire à nos auditeurs et auditrices, bah, merci de nous avoir écoutés et puis à très vite pour un nouvel épisode. Parce
on
qu'en
pourrait.
Fait, ouais, non, mais parce qu'en fait, ces chiffres-là démontrent la puissance de l'Inter cette saison.
C'est... Bah, tu sais, Johan, finalement, on est un peu sur la saison du Napoli l'année dernière, sauf que cette saison, on va dire que la Juve tient le choc, alors, ou tenait le choc, ça dépend des points de vue après ce match, mais on est vraiment sur une équipe qui, ah oui, qui domine totalement la Serie A. Il y a eu ce faux pas, mais qui remonte à si loin maintenant contre Bologne à domicile. C'était un match nul, il y a eu Sassuolo aussi, la première défaite. Mais sinon, oui, on s'attendait à un choc dimanche soir. Et honnêtement, Johan, je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais voilà, moi honnêtement, avant le match, je me doutais que l'Inter le gagnerait parce que pour moi, le rapport de force était quand même différent entre les deux équipes, du moins de ce que j'avais vu jusqu'à dimanche soir. Je trouve que la Juve quand même a résisté, on va dire, à un certain moment, mais c'était vraiment de l'attente tout le temps, au point que sur l'aller et le retour, entre le match aller 1 et le retour 1-0, la Juve n'a cadré que deux frappes, dont un but, c'était au match aller. Voilà, c'est dire un peu la stratégie qu'avait prévu Allegri. Et finalement, Johan, la Juve devait gagner ce match-là quand même, ou du moins ne pas le perdre.
Ouais.
Parce que le perdre, bon, c'est vrai que ça te met encore plus un coup au classement parce que t'es potentiellement à moins 7. Faire match nul, c'était rester dans la course, mais en soi, t'étais quand même derrière l'Inter avec un match en plus. Et là, voilà, le gagner, c'était quand même mettre un coup à l'Inter déjà au moral et faire un gros coup au classement parce que tu repassais devant dans l'attente de ce Inter-Atalanta. Donc, voilà, j'aurais aimé du moins que la Juve soit un peu plus entreprenante. Je n'ai pas été surpris qu'elle le soit pas. Mais voilà, sur le choc, en tout cas, si Chesney ne fait pas deux, trois miracles, honnêtement, on est sur un 3-0 qui, voilà, qui n'aurait pas été totalement immérité pour l'Inter, qui est une équipe vraiment, dont les mécaniques sont parfaitement assimilées, dont Inzaghi est capable de faire progresser le joueur. On en a souvent parlé, toi et moi, dans ce podcast, mais l'effet qu'a Simone Inzaghi sur chaque joueur, on pourra en parler après, mais c'est assez impressionnant. Et vraiment, c'est un rouleau compresseur, l'Inter, en championnat. Et on voit pas comment, aujourd'hui, alors on enregistre, on est le 6 février, alors on voit pas comment l'Inter, honnêtement, pourrait perdre ce Scudetto, après cette phase, elle est là, et c'est au mois de janvier qu'elle vient de réaliser.
Ouais, tu sais, le seul truc, c'est le fameux « on sait jamais dans le football ». Mais ce qui me gêne avec ça, c'est que normalement, c'est pas une phrase que tu prononces pour la Juve, tu vois. Le « on sait jamais », sur un malentendu, etc., c'est pas digne de la Juve, en fait, ce genre de considération-là. Et ce qui est vraiment gênant, c'est de se dire que le seul truc qui peut empêcher l'Inter de gagner le titre, c'est un élément presque extraordinaire, un miracle, je ne sais quoi. Alors qu'en fait, quand tu regardes, non pas seulement le palmarès, l'historique, l'ADN de ce club-là, mais simplement l'effectif aussi. Voilà, il suffit de regarder un petit peu quel joueur compose cet effectif-là. Et sincèrement, on a une équipe de tout premier ordre. Et c'est vrai que en fait, la différence entre le match aller et le match retour de cette interview, c'est que c'est l'approche du match par l'Inter. À l'aller, ils avaient voulu totalement gérer.
Exactement.
Et ils avaient plutôt bien géré. La deuxième mi-temps, souviens-toi, elle avait été catastrophique. Il y avait zéro spectacle, rien du tout.
Des deux côtés.
Des deux côtés, ouais, tout à fait. Et là, le match retour, clairement, ils ont commencé le match pied au plancher, tout de suite de la pression, tout de suite des occasions, tout de suite la volonté d'aller faire la différence. Et même si en deuxième mi-temps, ils ont un petit peu plus géré, parce qu'ils ont bien vu que de toute façon, la Juve n'arrivait à rien, en fait. Alors, elle n'arrive à rien. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'elle ne voulait rien faire, en fait, par les consignes de son entraîneur? C'est toujours un peu difficile à évaluer, mais moi, ce que je disais hier à la radio, c'est que pour moi, la Juve, ils auraient pu jouer 7 heures comme ça. 8 heures, 9 heures, 10 heures, ils n'auraient pas marqué un but. C'est impossible de marquer en faisant aussi peu. Donc finalement, l'Inter a eu raison d'un petit peu plus gérer, même s'ils ont eu des passages aussi en deuxième mi-temps où ils ont appuyé, ils auraient été capables de marquer, comme tu l'as dit, hein, deux ou trois buts en tout, enfin un ou deux buts supplémentaires en tout cas. Donc, moi, je voulais te lancer sur deux considérations un peu globales sur cette équipe-là de l'Inter. La première, c'est le sentiment quand tu vois les matchs cette saison. D'ailleurs, les deux se rejoignent un peu. Je vais mixer les deux. Le sentiment que quand tu regardes les matchs cette saison, le sentiment de se dire, ils vont finir par marquer, ils vont finir par gagner. Cette impression de puissance, de domination, de sorte de, pas forcément rouleau compresseur, parce que ça voudrait dire des vagues et des vagues et des vagues et des vagues, mais oui, de domination. Je trouve pas de mot meilleur pour exprimer ce que me laisse penser cet Inter. Quand je vois leur match, tu te dis, bah, il suffit d'une petite accélération pour créer une occasion. Ils ont des joueurs individuellement qui sont costauds, ils ont un collectif qui est costaud, on a des joueurs qui commencent à se connaître très bien, on a des joueurs qui ont été très bien intégrés aussi. Ouais, j'ai le sentiment de ça va finir par passer en fait, quoi qu'il arrive, contre n'importe quel adversaire d'ailleurs, pour le coup. Et la deuxième considération, Guillaume, souviens-toi, l'année dernière, il y avait eu un peu les montagnes russes.
Oui.
Notamment de mémoire, je crois que c'était début d'année, où c'était un peu compliqué pour Inzaghi. Tu sais, il était très critiqué à ce moment-là, notamment par les anciens joueurs de l'Inter, etc. Et ça, on ne l'a pas du tout cette saison, Guillaume. On a pas, tu vois, ce sentiment de domination, en fait, là, il est total et totalement régulier.
Exactement. Il y a eu quelques temps faibles, parce que tu sais, des fois, les séances, ça tourne sur pas grand-chose. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit. Il y a certains matchs ou certains épisodes, tu sais, dans les matchs, par exemple, contre la FIO, la semaine dernière, ils ont ce penalty raté par Nico Gonzalez. Il y a des moments où ça aurait pu tourner d'un côté. Regarde le match face à l'Hellas, par exemple, avec ce temps additionnel complètement dingue, où Fratesi met le 2-1. L'Hellas a un penalty après, il le manque. Donc, tu vois, il y a aussi des épisodes, on va dire, qui auraient pu te faire tourner la saison d'une façon. Et finalement, ces épisodes sont à ta faveur, finalement. Et ça te donne encore plus de force que si tu avais gagné un match 1-0 ou 2-0 de manière, on va dire, très, très limpide. Ces matchs face à la FIO, face à l'Hellas, c'est aussi des signes, un peu comme Naples la saison dernière, Johan, où vraiment, tu avais ce sentiment que rien ne pouvait leur arriver. Naples était vraiment sur une dynamique et sur un nuage que presque aucune équipe ne pouvait t'en faire descendre. Et cette saison avec l'Inter, voilà, ces fameux épisodes dont j'ai parlé, ça tourne en ta faveur. Et c'est là que t'as ou même les autres équipes, on va dire ou du moins de ce qu'il en reste des rivaux de l'Inter, qui disent oui, mais en fait, c'est leur année, un peu comme Naples l'an dernier. Mais c'est vrai que cette année, l'Inter, et puis, Johan, tu parlais du fait que l'Inter m'en marquera. Moi, j'ai le sentiment aussi inverse. Alors, ils prennent quelques buts, mais on parle quand même de 19 clean sheets, depuis le début de la saison. C'est un chiffre assez dingue. Dis-toi que lors des deux dernières semaines, si on prend la Super Coupe, ils ont joué la Lazio, le Napoli, la Fiorentina et la Juve. Donc on parle pas des, alors on parle pas de petites équipes, hein. Lazio, Napoli, Fiorentina, Juve, ils ont pas pris un but. Donc voilà, c'est dû aux individualités forcément, mais aussi pour moi c'est vraiment toute la phase défensive et c'est vraiment toute l'équipe pour moi qui est le fruit de cette saison-là. Alors évidemment que on peut ressortir l'intégration de Marcus Thuram, la saison exceptionnelle de Lautaro, de Benjamin Pavard, on pourra en parler, qui est arrivé de rien contre 30 millions d'euros à l'époque. On était un peu interloqué et finalement qui fait une saison exceptionnelle. On a vraiment l'impression que le chef d'orchestre de tout ça, Johan, c'est quand même Simone Inzaghi, qui a eu des difficultés les dernières saisons. On va pas se mentir, hein. Quand ils font plus de 10 défaites la saison dernière, c'est forcément compliqué à défendre pour lui.
Ouais,
Mais je
mais
trouve que...
tu vois, juste là-dessus, Guillaume, je trouve
Ouais,
qu'on a
dis-moi.
été extrêmement dur avec Simone. Enfin, pas, moi, je me mets pas dedans parce que j'en faisais clairement pas partie. Mais je trouve qu'il y avait un peu un délit de sale gueule avec Inzaghi à ce moment-là. Et surtout, très peu de critiques envers certains cadres qui remplissaient pas leur rôle. Souviens-toi, les prises de tête, tu sais, des joueurs sur le terrain, des mini-embrouilles, Onana Dzeko, Calhanoglu Barella. Il y avait quand même. Alors moi, oui, bien sûr que l'entraîneur pouvait essayer de régler un peu ça, etc. Mais ouais, je trouve que. En fait, j'ai l'impression que. Tu vois, c'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression, limite, qu'en Italie, par beaucoup, il était plus considéré quand il était entraîneur de la Lazio que comme entraîneur de l'Inter aujourd'hui?
Tu sais, je pense que la saison dernière aussi, rappelle-toi, elle arrive après celle du Milan champion, où Inzaghi, à un moment, avait quasiment 10 points d'avance hein, quand il mène dans le derby de Giroud, le fameux doublé. Et je pense que cette saison-là, quand même, où on voyait l'Inter lancer vers le titre et finalement remporté par leur rival, voilà, elle a porté préjudice sur celle d'après. Hein, pour Inzaghi, on avait vraiment le sentiment qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Donc, je comprends ce que tu veux dire, mais je trouve quand même qu'il a progressé. Je ne sais pas ce que tu en penses, comme dans la gestion, même humaine, je trouve qu'il prépare mieux les matchs. Je pense que tous les ingrédients sont là. Je trouve que même dans les rotations, voilà, il est moins épars, moins éparpillé. Je trouve que mentalement, tactiquement, il prépare mieux ses gros matchs. Cette saison, il n'en a pas raté un. Et puis surtout, Johan, tout à l'heure, je parlais de la progression individuelle des joueurs. Est-ce que toi, tu aurais pensé que Matteo Darmian aurait atteint ce niveau-là en arrivant à l'Inter? Est-ce que tu aurais pensé que Acerbi aurait atteint ce niveau-là quand il a signé à l'Inter? Pavard, Marcus Thuram, je pourrais en citer d'autres qui sont arrivés à l'Inter. Regarde Çalhanoğlu, qui à Milan était quand même pas. Alors c'était un bon joueur, mais c'était pas un foot de guerre. Et aujourd'hui, c'est quasiment le meilleur milieu de terrain de Serie A dans un nouveau poste. On a vraiment l'impression quand même que Inzaghi, à l'inverse de ce qu'on a pu dire sur Mourinho hein, dans un précédent podcast quand on parlait de son départ de la Roma, qui voilà a du mal à faire progresser ce joueur ou il ne fait pas progresser du tout. Inzaghi, quand même, a cette capacité, a cette influence positive sur les joueurs, même tactiquement. Marcus Thuram le disait, où vraiment il apprend beaucoup à ses côtés, parce qu'Inzaghi aujourd'hui est quand même rodé, hein, entre son passage à la Lazio, son passage à l'Inter. Il apprend beaucoup avec un entraîneur comme lui, et forcément aussi, Inzaghi apprend des erreurs qu'il a pu commettre, bah voilà, soit dans le rush final de la saison 2021-2022. Soit la dernière, ou quand même, Johan, il était à deux doigts de gagner la Ligue des Champions et il gagne quand même la Coupe d'Italie, la Super Coupe d'Italie. Donc,
Un look à couper.
voilà. Donc, pour moi, quand même, cet Inter-là, c'est. Et Marotta l'a dit d'ailleurs, je ne sais pas si tu as lu son interview à DAZN, c'était lundi soir, où il a dit vraiment qu'il était impressionné par le travail de Simone Inzaghi. Il disait qu'on n'en parlait pas assez. Parce que, voilà, que tout ça. Alors, c'est évidemment grâce aux joueurs, mais ce niveau-là, ce niveau de cohésion, ce niveau de, voilà, de tout est cohérent dans ce qui est fait à l'Inter, bah, c'est aussi grâce à Inzaghi, c'est surtout même grâce à Inzaghi. Et dernière chose que je rajouterais, on parlait de la finale de C1, et je l'avais déjà dit dans le podcast, et je pense vraiment, Johan, que cette finale de C1, perdue de cette façon-là face à un grand club comme Manchester City, ça fait plus de bien que de mal. Là, je vois vraiment une équipe qui a confiance en ses moyens et voilà, qui sait de quoi elle est capable et qui aujourd'hui est complètement soudée et qui sait qu'elle peut gagner la Serie A et qui va probablement la gagner en fin de saison.
Ouais, c'est bien sûr qu'il y a une évolution chez Simone Inzaghi, ça me semble assez clair. Je reste malgré tout quand même sur une impression de. Enfin, tu vois, j'ai pas entendu les éloges sur Inzaghi qu'avait eu Pioli par exemple. Alors, tu veux me dire que la différence c'est que Pioli a gagné un Scudetto. Et ben, on verra si à la fin de la saison là, si Inzaghi le gagne, on aura les mêmes éloges sur Inzaghi. Je ne sais pas forcément comment l'expliquer, cette impression que ça me laisse. Peut-être parce qu'il y a eu des critiques vraiment qui étaient, pour le coup, très, très, très,
Virulente, hein.
ouais, très, très fortes, tu vois. Moi, je reste quand même assez impressionné par son travail. Et tu parlais de la façon de faire progresser les joueurs. Et dans un contexte économique pas ultra favorable pour l'Inter, on peut même
Oui,
parler
en
de
plus.
valorisation du joueur, hein, tu vois, au-delà
Totalement.
même de l'aspect sportif. Souvenons-nous quand même de ce qu'il a fait de Luis Alberto à la Lazio. Souvenons-nous quand même ce qu'il a fait de Joaquín Correa à la Lazio. Souvenons-nous quand même de ce qu'il a fait d'un Caicedo. Je sais pas si tu te souviens de lui à la Lazio.
Qui
Mais tu
marquait
vois,
toujours à la dernière seconde.
mais ouais, voilà. Mais tu vois, c'est là aussi que tu reconnais le travail des entraîneurs. C'est pas simplement de faire progresser les grands joueurs. C'est aussi des joueurs moyens ou des bons joueurs tout simplement de championnat qui deviennent des joueurs majeurs. Tu le disais, Darmian, c'est impressionnant. Il avait été bon au Torino, Darmian, avant d'aller à United, hein, mais il a jamais atteint ce niveau-là. Hein.
Bien sûr. Di Marco, Johan. Di
Di
Marco.
Marco, bien sûr.
Avant qu'il arrive à l'Inter, avant qu'il revienne à l'Inter, c'était pas le Di Marco qu'on connaît aujourd'hui, qui a pris une dimension pour le coup européenne.
Et un autre truc que j'aime bien chez Inzaghi, c'est Bon, tu sais, Marotta disait hier, voilà, que on soulignait pas assez le travail de d'Inzaghi. Ce qui est marrant, c'est que Marotta est passé juste derrière Daniele De Rossi à la fin du match de la Roma. Et je sais pas si tu as remarqué ce qu'avait dit De Rossi, mais il a quand même
Ah
expliqué
si, oui,
que
bien sûr.
l'Inter était l'équipe qui jouait le mieux en Italie avec Bologne. Il commence par dire c'est l'équipe qui joue le mieux. Après, il dit, bon, il y a Bologne qui est à peu près au même niveau. Et voilà, et il a raison, hein. Cette année, c'est quand même assez pauvre en jeu en Italie. On avait été assez gâtés quand même les années précédentes. Et là, cette saison, il y a quand même beaucoup de matchs très pénibles à suivre, de clubs assez pénibles à suivre, où il se passe quand même pas grand-chose. Là, c'est vrai que l'Inter, en termes de qualité de football, et on l'a vu encore par beaucoup de séquences contre la Juve, c'est vraiment l'équipe qui joue le mieux. Mais pour revenir à Inzaghi, tu sais... Évidemment, il y a toujours ce truc de le schéma, ça reste le schéma, et tout dépend de ce qu'on demande au joueur et de l'interprétation du rôle par le joueur. Et ben, je trouve que chez Simone Inzaghi, dans cette Inter-là, on retrouve des choses qu'on voit dans des clubs plus huppés en première ligue, dans des clubs qui fonctionnent bien et dont on souligne la qualité de football, comme Girona en Espagne, enfin Gérone. Tu sais, par exemple, la façon d'utiliser les arrières centraux excentrés. Donc dans la défense à 3, pas le défenseur central qui est plein axe, hein, mais les deux de côté. Et je trouve que le but de l'Inter est une belle illustration contre la Juve, donc le CSC de Gatti. La projection de toute l'action qui se développe côté droit, la projection de Pavard dans le demi-espace, qui va ensuite dans la surface, alors que c'est le défenseur central axe droit. J'ai souvenir d'autres occasions où il y a des projections, et on le sait, à Acerbi qui monte avec le ballon, qui casse des lignes avec le ballon, qui est capable ensuite de faire un long centre au deuxième poteau, type pour Dumfries ou pour Darmian. Il y a quelque chose de très moderne dans l'utilisation des défenseurs centraux de côté, y compris tu sais, chez les Pistons. Di Marco qui se retrouve parfois limite numéro 10 ou numéro 9 à conclure des occasions. Dumfries le faisait un peu plus que Darmian. Darmian a une interprétation un peu différente, mais. Voilà, les pistons toujours un peu dans les demi-espaces, parfois à les pousser jusqu'en 8, à les presser en tant que numéro 9, le gardien adverse, c'est des choses qu'on voit dans des clubs qu'on présente comme des innovations tactiques pour lesquelles on utilise du vocabulaire un peu hype, un peu trend sur toutes les notions tactiques qu'on aime bien, etc. Bah, moi, j'en vois aussi chez Simone Inzaghi qui sont pas forcément soulignées. Et c'est en ça aussi que j'aime bien son travail, c'est cette façon, pardon, de se mettre un peu à la page, tu vois, de pas rester ancré dans ce qu'il a fait, ce qu'il a travaillé, ce qu'il a étudié, notamment à la Lazio ou à ses débuts à l'Inter, mais toujours d'aller chercher plus. Et tu vois, là-dessus, on voit un vrai éveil, une vraie curiosité, une vraie envie de continuer à progresser. Et bah, Guillaume, la comparaison avec l'entraîneur d'en face dimanche soir, bah, elle est terrible en fait. C'est que t'en as un qui se modernise et qui progresse et qui doit sans doute manger beaucoup de matchs européens, etc., etc. Et t'en as un autre, non.
Comment s'appelle l'autre? Un certain Massimiliano Allegri?
Oui, mais on pourrait le faire avec d'autres entraîneurs. J'ai pas envie forcément
Oui.
de taper sur Allegri, mais c'était valable pour Mourinho, c'est valable pour Sarri par exemple, c'est valable pour pas mal d'autres entraîneurs, mais. Voilà, cette modernité d'Inzaghi me plaît, et j'ai envie de te demander, mon cher Guillaume,
Dis-moi.
ça peut être quoi l'étape supérieure pour Simone Inzaghi selon toi?
À l'Inter?
Non, de manière
Ou
générale.
de manière générale? Ah, écoute, pour l'instant, déjà, gagner le Scudetto pour lui, ce
Ouais.
serait déjà une étape exceptionnelle, parce qu'il passerait ce fameux cap qui lui est souvent reproché. Tu disais tout à l'heure dans les critiques, ouais, où beaucoup lui disent, oui, il a gagné les Coupes d'Italie, oui, il a gagné les Supercoupes. Il faut rappeler que, à la Lazio, Johan, il gagne déjà les Coupes d'Italie et des
Ouais,
Supercoupes.
exactement, ouais.
Donc, ce qui n'était pas le plus simple. La deuxième chose que je rajouterais avant de répondre à ta question, c'est que c'est vrai qu'Inzaghi fait un boulot exceptionnel, mais tu sais, moi j'aime beaucoup le cycle de l'Inter qui a commencé avec Spalletti. Tu te rappelles, il y a eu des saisons très sombres à l'Inter, mais c'est vrai qu'on va dire le club a commencé à sortir la tête de l'eau quand Spalletti est arrivé. On va dire qu'il a normalisé un peu la chose et il a quand même commencé à, voilà, à distribuer du football à ses joueurs, au vestiaire. Ensuite, il y a Conte qui est arrivé, qui a apporté cette fameuse mentalité aussi. qu'avait probablement besoin le club et le vestiaire. Et Inzaghi vraiment hérite aussi d'un mix de tout ça, en apportant, tu l'as dit, sa patte, ce qui fait qu'aujourd'hui vraiment on arrive à une équipe qui est voilà, à un très très haut niveau. Et c'est là genre la troisième chose, Johan, c'est quand la saison dernière tu frôles la victoire en C1, j'ai pas envie de dire que tu dois la gagner cette année, parce que en Ligue des Champions c'est très bien que c'est beaucoup plus complexe que ça, et que chaque détail évidemment à son pesant d'or. Mais...
Et puis, tu as un club italien, donc tu ne peux pas prétendre à la gagner aujourd'hui.
Exactement, exactement. Mais quand je vois le niveau, un peu, tu vois, finalement, on avait été déçus par le Napoli la semaine dernière en C1. Il y avait cette élimination en quart de finale face à Milan. Mais c'est vrai que cette année, cette équipe-là, clairement, moi, j'en avais parlé sur Eurosport, Johan. Alors, je la mets. Si, je peux la mettre dans mes favoris pour la C1. Honnêtement, gagner le quand t'as autant d'avance en championnat, notamment si ça se confirme avec ton match en retard, honnêtement, t'es en demi-finale de la Coupe d'Italie, tu vas probablement gagner la Serie A.
Ils sont pas en Coupe d'Italie, hein, ils ont été éliminés. Hein.
Ah oui, ils ont été éliminés. C'est vrai qu'ils
ont
été éliminés.
Ils ont perdu contre Bologne.
T'as raison, ils ont été éliminés contre Bologne. Non, mais pour moi, en tout cas, pour
ils ont gagné la Super Coupe d'Italie, par contre. Déjà.
Là, ils ont gagné la Super Coupe, ils se sont fait éliminer par Bologne. T'as raison, en Coupe d'Italie. Mais par contre, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais en Ligue des Champions, alors, tu as ce match face à
le tirage, ce n'est pas
sera
simple.
Pas évident. Hein. Ouais, on a parlé, hein, toi et moi, dans un précédent podcast, en réaction au tirage, ce n'est pas évident. Mais son équipe est tellement arrivée à un niveau de maturité, d'expérience. Et tu as tellement l'impression, moi, ce qui m'impressionne, Johan, c'est que c'est un football moderne, d'accord, c'est un football qui est plaisant. Mais surtout, Johan, ils ne prennent pas de but. C'est ça qui est incroyable. C'est que la capacité à trouver un équilibre. Regarde de l'autre côté de Milan. De l'autre côté du Naviglio, comme on dit à Milan. Regarde, tu as une équipe quand même, alors qui a un jeu, on va dire, qui est plaisant, mais qui est complètement déséquilibré. Qui a pris 27 buts, je crois, en 22 matchs. Et tu en as une qui en a pris 10. Et c'est ça qui est dingue avec Simone Inzaghi, c'est qu'il arrive vraiment à trouver cet équilibre entre bien faire jouer son équipe et à bien la faire défendre. Et en Italie, tu le sais, tu gagnes avec quasiment toujours la meilleure défense. Donc, la première étape, Johan, pour moi, déjà, ce serait, pourquoi pas, de s'inscrire dans la durée quand même avec l'Inter. Ça fait comme 3 saisons maintenant qu'il est là. Et pourquoi pas, surtout maintenant, viser au-delà du titre, viser, pourquoi pas, la victoire.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ouais, c'est vrai qu'ils ont un calendrier qui est un peu compliqué, enfin un tirage plus qu'un calendrier. Le match contre l'Atlético, tu sais jamais trop à quoi t'attendre avec l'Atlético. Enfin,
c'est ça qui est compliqué. Hein.
Si tu sais à quoi t'attendre en termes de jeu, mais disons qu'il y a des fois où ils le font tellement bien que c'est dur de leur mettre un but, et des fois où finalement, c'est pareil, tu prends les individualités de l'Atlético en défense, c'est pas non plus que des cadors. Il y a des bons joueurs, hein, mais il n'y a pas que des cadors non plus, un peu comme à l'Inter d'ailleurs. Tu te dis, ça peut aussi marquer des buts, et dès que tu fends un peu l'armure de l'Atlético, ça peut vite devenir un peu compliqué pour eux. Mais oui, effectivement, là c'était important de prendre cette victoire contre la Juve, parce que tu te offres au moins un petit matelas, tu peux en avoir même deux si tu gagnes ton match en retard, tout en sachant qu'il n'y a plus de confrontation directe contre la Juve, et donc ça c'est un vrai avantage aussi maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le. Ouais, mais en un seul week-end, tu peux faire de plus 3 à 0. Là, tu ne l'auras pas, en tout cas pas dans une confrontation directe. Donc ça, c'est bien. Et je voulais qu'on, dans les derniers points, Guillaume a évoqué très rapidement, je pense qu'il faudra qu'on fasse un de ces quatre, un focus sur Çalhanoğlu. On va pas le faire aujourd'hui. Mais on en fera un, ouais, ouais. Les recrues, Guillaume, de cet été. Surtout 3, parce qu'après il y en a d'autres qui ont un temps de jeu un peu réduit, comme Fratesi, Bissek, etc., Arnautovic, Alexis Sanchez, ils ont moins de temps de jeu. D'ailleurs, je suis un peu déçu pour Fratesi, mais bon, l'équipe marche comme ça. Mais Pavard, Sommer et Thuram, trois joueurs qui viennent de Bundesliga et trois joueurs qui. Tu vois, par exemple, bon, Pavard, on a un petit peu parlé. Thuram, on a beaucoup parlé. Prenons Sommer. Je trouve que c'est un cas intéressant. Parce que bah, quand Tonana est parti, évidemment, il y avait un peu une déprime chez les supporters de l'Inter, et ça peut se comprendre, parce qu'il avait été fondamental, hein, Onana, notamment en Ligue des Champions. Souviens-toi le match à Porto, où sans des miracles en fin de match, tu sais pas si tu as le même parcours européen. Et donc, il y avait cette incertitude de qui va arriver. Et puis quand il y avait eu Sommer, tout le monde était un peu resté, tu sais, sur les mois un peu difficiles de Sommer au Bayern, quand il est arrivé, parce que Neuer, en faisant du ski, s'était cassé la jambe. Et en fait, il répond totalement aux attentes. Alors, il n'a pas le jeu au pied, pied droit, pied gauche de Nana, c'est clair, mais de toute façon, il y a assez peu de gardiens en Europe qui l'ont. Par contre, sur sa ligne, Guillaume, on a affaire à l'un des meilleurs portiers encore aujourd'hui en Europe.
Évidemment, évidemment, et t'as bien fait de rappeler que Onana aujourd'hui, bon, on voit bien le niveau qu'il a atteint à Manchester, ou du moins où il a régressé, mais c'est vrai que Sommer, honnêtement, personne n'aurait imaginé qu'il ait ce niveau-là, pardon. Alors, il y a forcément l'équilibre de l'équipe et cette capacité à défendre, qui te donne confiance en tant que gardien, forcément, parce que lui se sait protéger et sait que, forcément, quand tu prends 10 buts dans la saison, bah, voilà, tu es quand même sur un niveau de confiance qui est assez élevé. Mais il est parvenu vraiment à s'intégrer dans le monde Inter. Et c'est ça, Johan, qui est aussi impressionnant avec les recrues. Alors, à part celles que tu as citées, hein, que ce soit Sanchez, Arnautovic ou Bissek, qu'on voit un peu moins, qui sont peut-être plus en difficulté, même si Bissek, honnêtement, revenait plutôt pas mal. Sommer, il a été parfaitement intégré dans ce monde-là, dans le vestiaire. Et c'est vrai que c'est l'une quand même des surprises de la saison parce que personne en Italie n'aurait imaginé que il aurait atteint ce niveau-là. Et en plus, Johan, au niveau comptable, quand même, t'as vendu Onana pour plus de 60 millions d'euros, faut le rappeler.
Ouais.
Et Sommer, tu l'as pris. Alors, je dirais pas pour des miettes de pain parce que c'est pas le cas, mais
6
je me
millions, non,
demande
c'est pas ça?
6 millions exactement ce que j'allais dire. C'était entre 5 et 7 millions. Donc, il me semblait que c'était aux alentours de 6 millions, mais. Voilà, en plus, tu as fait une affaire financière. On sait que l'Inter est dans une situation qui reste quand même assez précaire. Et c'est ce que disait Marotta. Il faut toujours. Il disait, Marotta, quelque chose d'intéressant dans cette interview. Il disait que c'était intéressant et même stimulant, tu sais, de chercher l'opportunité quand tu te sais dans une situation complexe. Alors que quand tu as des finances, on va dire, quasiment illimitées, c'est plus simple d'aller
Bah, tu
chercher.
prends la liste des meilleurs joueurs et tu vois?
Exactement, et tu dépenses 80 millions, 90 millions. Il suffit d'aller à Paris où, quand je pense à Ekitike, Gonçalo Ramos, et tu vois, et les autres qui sont achetés pour des 80, des 40 millions d'euros. C'est vrai que l'Inter, à chaque fois, voilà, c'est réfléchi, c'est regardé. On sait que Zielinski, par exemple, va arriver en l'été prochain parce qu'il est en fin de contrat. Donc, il y a aussi, voilà, Sommer rentre aussi dans cette politique-là de mercato. Qui fait et qui pour le coup aujourd'hui est payante. Donc
Tiens,
clairement
Guillaume, je te
c'est
coupe un
ouais,
instant. Guillaume, tu m'as fait penser à
dis-moi.
quelque chose. Tu t'as parlé
Ouais.
de Zielinski.
Oui.
Qui sort du milieu de terrain, là?
Écoute, entre Barella, Çalhanoğlu, Fratesi, Mkhitaryan, ça va être compliqué.
Zielinski,
Honnêtement, de toute façon, je pense que pour l'instant, le milieu restera Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan.
tu penses pas qu'il peut y avoir un départ? Parce qu'on sait que pour
Ah,
s'autofinancer,
tu
pour
penses
s'auto...
que
Bah, en
ouais.
fait, tu vois, pour s'autofinancer, il faut aussi que. Tu vois, l'année dernière, ça a été Onana. L'année d'avant, c'était Lukaku, je crois, de mémoire.
Bah, quand il est parti,
Il part en
allez,
2000.
2021, je
Ouais.
crois. Ouais, il me semble qu'il part en 2021,
Non, ouais, si, c'est ça, 2021. Donc, je réfléchis en même temps. 2021, 2023, il y a eu Onana. En 2022, je l'ai plus de tête. Est-ce qu'il y a eu un autre.
De toute façon, on sait que l'Inter.
Meuble, mon
Ouais.
cher Guillaume, je vérifie.
Non, non, mais on sait que l'Inter, et c'est pas un secret, doit vendre plus ou moins un gros poisson par été. Et tu vois, Johan, j'ai réussi pour Lukaku, il part à Chelsea pour les fameux 115 millions d'euros le 12 août 2021. Donc c'était le gros départ. À l'époque, il y avait aussi Hakimi, Johan,
Hakimi, en même temps, c'est
ouais,
ça.
qui était parti au PSG pour une quarantaine de millions, je crois. un peu plus.
60, 60.
60 millions, exactement, 60 millions.
Ce qui fait que l'année d'après, tu n'avais pas eu de gros transferts sortants. Tu avais eu Cazadei qui avait financé une bonne partie en étant vendu pour 15 millions d'euros.
Et c'est aussi là que on voit bien que Marotta est fort, que Ausilio aussi est fort. Marotta l'a beaucoup cité dans son interview où il disait, mais c'est un super directeur sportif et il faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que Zielinski, Johan.
Bah moi, tu vois,
Bon.
vraiment, hein, je me demande s'il n'y a pas une sortie à... Parce que pour moi, ça fait aucun sens, Guillaume, d'avoir
Dans ce cas-là,
autant de joueurs, quoi.
ce sera un joueur bankable, on va dire, comme Barella ou comme Çalhanoğlu.
Bah, en
J'ai du
fait,
mal
si,
à. Ouais.
bah, mais puis il y a un truc, c'est que Zielinski joue pas devant la défense.
C'est pour
Tu
ça. Donc
vois?
Çalhanoğlu, tu veux le garder. Fratesi, quand même, il arrive l'été dernier.
Donc,
Alors
il va rester.
il est dans la rotation, il va rester. Barella, honnêtement, j'ai du mal à le voir partir. Hein.
Bah
Tellement
moi
on l'imagine.
je sais pas pourquoi mais je misais sur lui moi mais
Aïe.
bon.
Aïe, Yohan. Tu
Non non
m'inquiètes.
mais
Tu
non
m'inquiètes.
mais non en fait j'ai aucune info là-dessus hein, mais c'est juste tu vois bah
En
il
tout
faut
cas,
le financer
ouais.
en fait enfin déjà il faudra financer ton mercato parce qu'on sait que c'est compliqué alors sauf s'ils réussissent à aller encore aussi loin en Ligue des Champions. Après il y a le Mondial des clubs qui va te ramener pas mal d'argent etc. Mais malgré tout, il y a aussi un prêt à rembourser. Si tu renégocies cette dette-là, ça veut dire que tu te réengages encore avec des taux improbables, etc. Donc il va falloir. Et puis mine de rien, ok, les mecs arrivent libres. Par contre, ils n'arrivent pas gratuitement, parce que je rappelle que Marcus Thuram, dans les comptes de l'Inter, c'est 8 millions d'euros la prime à la signature. Donc c'est comme un transfert à 8 millions d'euros. Sauf que de mémoire, la prime à la signature, tu la payes comptant sur ton bilan comptable et tu peux pas l'amortir, donc tu peux même pas faire jouer l'amortissement.
Zielinski, je crois que c'est 5 millions, il me semble, de
Il me semble
primes.
que j'ai lu ça aussi, 5 millions de primes, et ça
Ouais.
aura un gros salaire aussi, tu vois.
4,5 plus bonus,
Voilà,
ce que dit Sévadia.
donc, et sans... Bah, de toute façon, il était en Italie
C'est le
depuis
salaire d'un
longtemps.
titulaire, Johan. C'est le salaire d'un
Voilà. Et
titulaire.
puis
C'est.
sans decreto crescita, puisque ça fait longtemps qu'il est en Italie.
Ouais.
Mais tu vois, ça... Et donc, tu... C'est pareil, il faudra aussi gérer les égos parce que est-ce que Fratesi accepterait de faire une deuxième saison en jouant si peu? J'en suis pas certain. Hein.
Là, en plus, il est blessé, donc Fratesi, c'est une situation compliquée même pour lui cette saison, hein, où il a eu
Mais
quelques coups de moins bien. Il est dans les rotations, il voit bien qu'il n'est pas titulaire non plus.
ouais.
Quand il rentre, il est quand même plutôt pas mal. Il a souvent marqué aussi. Et puis
Mais
surtout, il est déjà blessé.
une saison comme ça, quand tu arrives dans un grand club, tu
C'est
acceptes de la
normal, eh
faire.
bien
Mais
évidemment.
deux, tu vas commencer à perdre du temps. Hein.
Et surtout que le milieu de terrain, c'est quand même le point fort de l'Inter.
Bien sûr.
Alors. T'as l'attaque, t'as Lautaro Thuram, mais derrière, c'est plus compliqué quand même parce que quand l'un des deux manque, c'est compliqué de les remplacer. En défense, c'est quand même plutôt solide, mais c'est vrai que le milieu de terrain, vraiment, c'est le point le plus fort pour l'Inter. Donc c'est vrai que tu rajoutes Zielinski à ce secteur-là. Ouais,
Où t'as
c'est vrai
déjà Slani
que.
qui joue jamais, où t'as Fratesi qui joue jamais, bon courage, hein. Je trouve que... Enfin, je sais pas, moi je le voyais un peu comme ça en projet.
Mais il y a eu ce scénario qui a été fait dans les médias, alors je sais plus lequel, mais j'ai lu ce scénario, hein, parce que Zielinski, Johan, c'est pas non plus un joueur de rotation au Napoli, hein. On parle quand même d'un titulaire
Bien sûr.
qui a été capital dans la quête du Scudetto la saison dernière, donc c'est un joueur très important qui arrive à l'Inter. Hein, donc voilà, il n'arrive pas, du moins dans l'idée, même pour lui, je ne pense pas qu'il arrive dans l'idée d'être remplaçant à l'Inter. Hein, du
Bah
moins, je ne
non,
pense pas qu'on lui assure.
après, il sera pas forcément un indiscutable, tu vois, mais bon, il faudra jouer quand même la trentaine de matchs dans la saison, hein, donc
Totalement, totalement. Et il a 29 ans. Il a 29
aussi,
ans.
aussi.
Voilà.
Et puis en plus, surtout si c'est pour le faire jouer 12 matchs, tu vas pas chercher un mec à 4 millions et demi net annuel, hein, donc
C'est ça. Et Johan, dernière chose que je voulais rajouter avant
ouais.
qu'on finisse le podcast. Autre chose sur Simone Inzaghi et je sais que toi aussi, tu es très attentif là-dessus avec les coachs, notamment en Italie, mais aussi sa communication, que je trouve meilleure, plus ciblée, plus centrée. Ça parle football. Il est moins. Tu vois, je sais que les dernières semaines, il parlait beaucoup des arbitres, beaucoup de faits de jeu. Cette saison, je le vois concentré, appliqué, focus. Et ça se ressent aussi pour moi sur sa préparation des matchs, tactiquement, mentalement, sur ses joueurs, sur son vestiaire. Et tout à l'heure, tu parlais du moment qui était plus compliqué la semaine dernière pour lui. Ce qu'on peut dire, Johan, c'est que le vestiaire, de ce qu'on a vu, c'est un vestiaire qui a toujours été avec son entraîneur. Et Marotta l'a rappelé, il y a une symbiose entre les parties. Qui fait que Inzaghi est quasiment un coéquipier pour ses joueurs. c'est dire la proximité. Alors, tu gardes le rapport coach-joueur parce que tu es obligé de le faire,
Bien
mais
sûr.
Inzaghi a réussi quand même à instaurer cette relation très forte, très fusionnelle avec ses joueurs, malgré des saisons qui ont été parfois plus complexes. Et même dans les saisons plus compliquées, il a toujours, Johan, quand même gagné quelques coupes.
C'est vrai. C'est un peu l'assurance de même dans une saison compliquée
Mais
d'avoir
oui,
malgré tout un trophée,
la
hein.
coupe, la super coupe, il gagne toujours
Ouais,
quelque chose.
c'est
Depuis qu'il
ça.
arrive à l'Inter, il a toujours gagné au moins une coupe par saison. Donc
Donc quand tu es dirigeant, c'est assez confortable aussi d'avoir un entraîneur comme ça, c'est clair. Voilà pour ce podcast spécial Inter, mon cher Guillaume. On rappelle 10% de réduction sur le shop Calcio EPP. C'est calcioepp.shop. Moins 10%, le code c'est podcast. Voilà, c'est quand même assez
tout
simple
simple, voilà.
pour s'en souvenir pendant 72 heures, hein, donc jusqu'à vendredi soir sur tous les posters et
Tous,
toutes
ouais.
les affiches murales également en aluminium.
Et en plus, Johan, c'est un de la Saint-Valentin. Ça
Ouais,
peut
aussi.
servir comme cadeau.
C'est
Ça
vrai,
peut être
c'est
sympa
vrai.
comme cadeau. Si
Ah bah
votre
tout à fait.
compagne ou compagnon adore la Serie A, adore un club italien ou adore la sélection italienne, à quelques mois de l'Euro, ça peut être un super cadeau pour la Saint-Valentin.
Exactement. Et on aura l'occasion d'ailleurs de reparler de cet euro, mon cher Guillaume, dans quelques temps.
Non, puisque l'Italie
Oui, puisque
y
oui, youpi!
est.
Pour une fois, non,
On y sera.
j'exagère, mais disons que le dernier épisode de Coupe du Monde au Qatar a été assez douloureux pour ceux qui aiment le football italien et la sélection nationale italienne. Voilà, Guillaume, on se dit à très vite hein, pour un nouvel épisode. Les Coupes d'Europe reprennent, donc on fera peut-être des petits focus aussi sur les matchs européens,
Ouais.
sur ce qu'il faut attendre de ces équipes-là en Coupe d'Europe. Il y a quand même, mine de rien, des tirages compliqués pour beaucoup d'équipes italiennes. Donc, est-ce qu'on aura autant de clubs italiens en quart de finale et demi-finale? Sans doute pas, mais on peut avoir aussi encore de belles épopées, comme on aime le dire, avec nos clubs italiens. Guillaume, on se dit donc à très vite pour un
À très
nouvel
vite, Johan.
épisode du podcast Calcio EPP. Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.